Animaux empaillés, papillons sous cloche, fleurs séchées, fossiles, pierres et métaux rares. À l'origine exposées dans des cabinets de curiosités, les collections naturalistes sont aujourd'hui présentes dans les allées des musées d'histoire naturelle. Si elles peuvent sembler désuètes, ces collections revêtent pourtant une importance primordiale pour comprendre le passé, mais aussi le futur. Musées, herbiers, jardins, ménageries, réserves naturelles permettent de reconstituer la mémoire de notre planète et représentent un vaste et complexe puzzle de l'histoire de la vie sur Terre. Ils forment en quelque sorte un catalogue du vivant, du minéral et de l'humain. Alors comment sont constituées ces collections? Que faut-il conserver? Dans quelles conditions? Comment faire évoluer les collections et comment les analyser? Quels sont leurs intérêts scientifiques? Et comment les collections anciennes peuvent éclairer le monde de demain? Plein de questions auxquelles nous allons tâcher de répondre dans cet épisode de La Fabrique du Savoir saison 3, un podcast du Monde réalisé en partenariat avec l'Institut Balanites. Bonjour, je m'appelle Josefa Lopez, je suis journaliste au Monde et dans cet épisode, je reçois trois invités réunis à l'occasion de l'Université d'été de l'Observatoire Homme-Milieu International Tesekere, organisé par l'Institut Balanites. Et à mes côtés, Violaine Nicolas Collin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes enseignante-chercheuse et responsable de collection pour plusieurs groupes de petits mammifères, notamment les rongeurs, au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris. Vous êtes également directrice de l'Institut de Systématique, Évolution et Biodiversité. Sidi Mohamed Sek, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes enseignant-chercheur à l'UFR des sciences de la santé de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis au Sénégal. Et vous êtes en train de construire un jardin botanique au sein de cette université. Pour vous, la conservation des espèces végétales est très importante, entre autres pour comprendre le changement climatique. Vous nous expliquerez tout ça. Et Papa Ibnou Ndiaye, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférence, enseignant-chercheur à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, au Sénégal, et vous êtes aussi co-directeur de l'Observatoire Homme-Milieu International Tesekere. Vous travaillez à l'implantation de réserves animalières le long du tracé de la Grande Muraille Verte. Peut-être une première question pour parler de ces collections naturalistes. Je disais qu'elles étaient parfois un peu désuètes, leur histoire remonte à quelque temps. Comment sont-elles apparues, Violaine Collin-Nicolas ?
Oui, en fait, elles ont une histoire très ancienne, donc elles remontent au XVIe siècle avec l'apparition des cabinets de curiosités. Alors, dans ces cabinets de curiosités, on avait des objets d'histoire naturelle, des plantes, des animaux, mais on avait aussi des objets créés ou transformés par l'homme, comme des instruments scientifiques, des instruments de musique. Donc, à l'époque, c'était surtout le côté un peu rare, bizarre ou esthétique des objets qui faisait que des gens riches, souvent, et aussi des curieux, les accumulaient. Et puis c'est vraiment au XVIIIe siècle qu'on a véritablement les collections d'histoire naturelle qui se mettent en place. Donc là, on sépare les objets d'histoire naturelle des objets créés ou transformés par l'homme. Et puis c'est surtout la façon dont on organise ces collections qui change, puisqu'à la fin du XVIIIe, on va employer un ordre systématique de taxonomie pour les classer.
Donc, c'est-à-dire, si on explique.
C'est-à-dire que, en fait, à la fin du XVIIIe, il y a Carl von Linné qui publie son Systema Natura. Donc, les espèces sont nommées par un nom de genre et d'espèce. Donc, ça fait une classification. Et on suit cet ordre, cette classification taxonomique, pour ranger les spécimens dans les collections.
Alors, au début, on était plutôt, d'après ce que vous expliquez, dans finalement la curiosité, l'accumulation, le plaisir finalement de collectionner, vraiment la collection. Et puis, on est allé, vous l'expliquez tout de suite, vers une méthodologie plus scientifique. Pourquoi ce changement de méthode?
Mais en fait, au 18e, vraiment, on est dans une période d'inventaire de la biodiversité. Donc, à ce moment-là, ce qu'on veut, c'est avoir le plus d'espèces, le plus de représentants dans nos collections. Donc on envoie à ce moment-là, de par le monde, des grands voyageurs naturalistes qui vont ramener des spécimens d'un peu partout dans le monde.
Sidi Mohamed Sek, pourquoi ce souci-là? On se rend compte que la nature est en train de changer, que peut-être certaines espèces disparaissent. On veut avoir finalement un recensement.
Oui, effectivement. Je pense que ce sont des collections qui sont très très importantes pour les scientifiques. À partir du moment où on commence à les systématiser, à mieux les organiser, c'est vraiment l'intérêt scientifique qui prime au-delà de la curiosité, de l'aspect exotique. Ce sont des collections qui, en fait, contiennent un tout petit peu la mémoire donc de la biodiversité à une époque donnée et donc qui permettent de les conserver pour les générations futures.
On est vraiment dans la transmission en fait.
Exactement, je pense que c'est un peu ça le but entre autres.
Au départ peut-être dans la transmission et après on se rend compte que ça peut nous servir à comprendre le monde qui arrive. Que nous apporte aujourd'hui Papa Ibn Ndiaye ces collections naturalistes?
Bon, ces collections naturalistes, on peut dire que c'est des bibliothèques naturelles. Moi, c'est comme ça que je le conçois. C'est comme les bibliothèques, nos livres que nous avons chez nous. Là, à la place de ces bibliothèques, nous avons quelque part, comme par exemple ce cas, comme elle l'explique au niveau du muséum, par exemple, une collection naturelle. Et ça, c'est extrêmement important parce que ça permet de comprendre beaucoup de choses du point de vue scientifique. Aujourd'hui, par exemple, ceux qui étudient l'origine de l'homme, ils utilisent ces collections. Ceux qui sont dans d'autres spécialités également, tout à l'heure, on a parlé de systématique. C'est le fait de classer les espèces, parce que comme elle vient de le dire, quand on prend les individus, chacun a sa lignée. Bon, dans la systématique aussi, c'est ça qu'on cherche, à classer les espèces. Et ces collections jouent un rôle extrêmement important sur cette classification des espèces.
Dans cette saison 3 de La Fabrique du Savoir, on s'intéresse beaucoup à la Grande Muraille Verte. Donc, c'est un domaine que vous connaissez tous les trois. Pour resituer pour le grand public, donc, la Grande Muraille Verte, c'est une initiative qui a été lancée il y a une quinzaine d'années environ pour lutter contre les effets du changement climatique, contre la désertification en Afrique. Le but, c'est de créer une espèce de long couloir végétal de 15 km de large qui traverse tout le continent africain d'est en ouest sur plus de 8000 km. Ça traverse 11 pays. Concrètement, en quoi ces collections naturalistes ou vivantes, puisque vous êtes en train de créer des collections vivantes aussi, Papa Ibn Ndiaye, comment ces collections vont pouvoir être utiles à la Grande Muraille Verte, qui est un projet qui a commencé il y a 15 ans, mais qui va encore continuer?
Par exemple, nous, quand nous étudions la faune au niveau de la Grande Muraille Verte, on s'intéresse aux espèces qui ont disparu actuellement et les espèces qui sont actuelles. Et ces espèces disparues, beaucoup de ces espèces, nous les avons dans ces collections naturelles. Nous les avons aussi dans des parcs zoologiques également. Ce qui fait que c'est toutes ces espèces-là qui sont réparties dans les collections naturelles, au niveau des parcs zoologiques, au niveau local ou bien même d'ailleurs, qu'on utilise pour enrichir ces réserves animalières qui vont être installées donc le long de cette Grande Muraille Verte. Et ça, pour la faune, on le fait de cette manière, mais même pour la végétation aussi, c'est de la même sorte. Et en plus de ça, du côté scientifique également, tout à l'heure, on a parlé de systématique. Bon, je pense que la systématique, ce n'est pas quelque chose de figé. Ça change. Donc, avec les outils qui sont utilisés, de plus en plus, il y a des changements au niveau scientifique, au niveau classification. Et ça, ces collections naturelles sont en quelque sorte des références pour cette partie aussi de la science.
Sidi Mohamed Sek, lorsqu'une collection est créée, il y a de nombreux paramètres à prendre en compte, notamment, et on en parlait tout à l'heure, bien indiquer le lieu, la date, ce qui n'est pas toujours le cas d'ailleurs dans les anciennes collections, parce que le but, ce n'est pas d'être simplement dans une collecte, c'est aussi de classifier les éléments. L'objectif, c'est donc d'avoir des références vérifiées, des échantillons fiables. Est-ce que c'est compliqué à faire, une collection naturaliste?
Effectivement, comme vous le dites, si vous voulez faire une collection, c'est un travail de précision. Donc, cela demande de l'expertise de la part de ceux qui créent la collection. Et souvent, donc, c'est pas un travail individuel, en fait. Donc, vous avez l'aspect de collecte, d'identification, de classification, de conservation. Tout ça, ce sont des éléments importants. Les collections sont le plus souvent bien faites quand elles le sont par des gens qui s'y connaissent, quoi. Voilà, peut-être c'est la différence entre ce qu'on peut appeler des collections, par exemple, qui sont dans des universités, dans des instituts, ou des collections faites par des amateurs, des amoureux d'une discipline ou d'un champ, qui peuvent avoir beaucoup de choses, mais encore faudrait-il pouvoir bien les classer, bien les nommer. Comme dit Papa Ibnou, même la systématique n'est pas simple. Donc, si on ne s'y connaît pas trop, certes, on peut être un peu une sorte d'amateur d'art antique ou de, si vous voulez, si on peut appeler ça comme ça. C'est comme les collectionneurs, en fait.
Oui.
Voilà. Mais l'aspect vraiment scientifique est très important.
les critères peuvent évoluer. Ça veut dire qu'à certains moments, des collections ne peuvent pas être utilisées, ne peuvent plus faire référence parce que justement, certains critères sont peut-être incomplets. Par exemple, des premières collections, on parlait du XVIIIe siècle tout à l'heure. Est-ce qu'on peut encore continuer à utiliser ce genre de classification auquel il manque peut-être aujourd'hui certains paramètres pour nous?
C'est l'existence de ces anciennes collections qui ont permis d'avancer et de pouvoir aussi donner, par exemple, de nouveaux critères, de rectifier certaines erreurs éventuelles. Mais les collections sont toujours utiles, même si elles sont pas parfaites. Mmh. Parfaites, donc, il faudra les améliorer et les perfectionner au fur et à mesure de l'évolution des connaissances.
Donc ouais. Vous utilisez ce mot d'évolution. Voilà. Donc ces collections, elles ne sont jamais figées finalement. C'est pour cela qu'il faut les mettre toujours et en permanence à jour, j'imagine.
Oui, et enfin, pour rebondir sur ce qui a été dit avant, on ne prend pas seulement le lieu et la date de collecte, on va prendre le maximum de paramètres sur cet individu. Il a été collecté, c'est quoi les coordonnées GPS précises, c'est quoi le type d'habitat, c'est quoi l'heure à laquelle on l'a capturé. Et puis, surtout quand on travaille sur les organismes marins, il va y avoir tous les paramètres physico-chimiques de l'eau, le pH, la salinité. Le but, c'est vraiment de comprendre l'individu, comment il vit au sein de son écosystème, les liens avec les autres espèces. Donc voilà, plus le temps passe et plus on accumule de données sur ce spécimen. C'est pas juste un spécimen qui est mis en collection. Et puis, on fait ce que les scientifiques appellent le spécimen étendu, c'est-à-dire qu'on ne conserve pas juste ce spécimen, on va conserver aussi toutes les données qui sont associées. Donc, on va pouvoir avoir un échantillon de tissu en alcool pour des analyses génétiques. On peut avoir des cellules cryopréservées à moins 80 degrés pour d'autres types d'analyses. Donc, on maximise en fait l'utilisation future de ce spécimen. Et voilà, et le terme d'évolution, comme ça a été dit tout à l'heure, c'est primordial en fait. Au fur et à mesure du temps, on ne conserve pas les collections comme nos prédécesseurs l'ont fait. Moi, quand je suis arrivée dans les années 2000 au Muséum d'Histoire Naturelle, on conservait par exemple les rongeurs sous forme de peau sèche et de crâne. Donc on extrayait le crâne, on le nettoyait, et puis après on gardait juste la peau sèche du spécimen. Aujourd'hui, on va plutôt avoir tendance à conserver le spécimen en entier en alcool, parce que comme ça, on va avoir des données sur le squelette, sur la musculature, sur le régime alimentaire, sur les bactéries symbiotiques.
Mais est-ce qu'on peut revenir et réétudier une collection? Parce que par exemple, avec les évolutions de la science, finalement, on peut aller chercher de l'ADN sur des collections anciennes.
Bien sûr, on extrait de l'ADN et maintenant on fait des génomes, vraiment des études à l'échelle fine génétique sur des spécimens qui ont plus de 100 ans. Même si les collections d'hier ont été collectées dans des conditions différentes et qu'on prenait moins d'informations qu'on en prend aujourd'hui, toutes les informations qu'on a sont néanmoins et restent importantes.
Papa Ibnou Ndiaye, au quotidien sur le terrain, justement, au niveau de la Grande Muraille Verte, notamment sur la faune, comment vous utilisez ces collections? C'est-à-dire que, par exemple, quand vous référencez un animal sauvage, vous allez prendre tous ces critères-là et les comparer à ce que vous pouvez avoir dans des collections?
Voilà, les collections, c'est des éléments de référence. Aujourd'hui, pour comprendre beaucoup de choses, même on parle de changement climatique, même sur les changements climatiques, avec les collections, on peut avoir beaucoup d'informations. Ceci dit, actuellement, sur les espèces, les collections, maintenant, c'est du diamant. Hein. Il y a beaucoup de chercheurs, actuellement, qui vont vers les collections pour comparer les données qui existent dans ces collections par rapport aux données actuelles. Du point de vue systématique, du point de vue évolution environnementale, celui qui collecte l'échantillon à un temps T, il prend tous les paramètres environnementaux, même l'auteur, parce que ça aussi, c'est un élément. La personne qui a collecté chaque fois aussi, on l'a sur l'étiquette. Et ça, par exemple, au bout de N années, donc ça permet de comparer du point de vue espèce et du point de vue environnement où l'espèce évoluait. À part ces deux disciplines que je viens de citer, à savoir biologie animale, biologie végétale, nous avons aussi d'autres spécialité qui utilise également, c'est les historiens, les paléontologues, les géologues.
Et si on prend des exemples concrets, demain, vous rencontrez un lion, voilà, dans la savane. Si vous analysez son patrimoine peut-être génétique, sa taille, son poids, etc., qu'est-ce qu'on constate et quels sont, notamment, on parle beaucoup du changement climatique, donc quelles sont les évolutions qu'on peut constater sur les espèces animales et peut-être ensuite sur les espèces végétales et les rongeurs?
On a des évolutions dans les aires de distribution des espèces. Donc ça, c'est grâce aux collections qu'on peut le voir, puisque pour chaque spécimen, on sait où il a été capturé et quand. Donc on peut remonter dans le temps et voir l'évolution de la distribution des espèces. Donc là, ça va être variable, hein. Il va y avoir des espèces dont l'aire de distribution se contracte et d'autres, au contraire, qui vont s'étendre. Et puis, on a plein de changements aussi morphologiques ou génétiques au sein des populations au cours du temps. Donc, par exemple, de la perte de diversité génétique. Et ça questionne le potentiel évolutif et adaptatif des espèces.
Je parlais de la taille, le poids, par exemple, des espèces. Ouais. Là aussi, le changement climatique a une influence.
Quand elle parle de morphologie, de génétique, ça dit tout. Hein, parce qu'en spéciation, c'est les paramètres aujourd'hui qui sont les plus utilisés. On utilise la morphologie, ensuite qu'on combine avec des données de génétique pour arriver à déterminer les espèces. Aujourd'hui, les gens retournent au niveau des collections pour comparer les données actuelles par rapport aux éléments qui sont au niveau des musées pour pouvoir refaire toute cette classification, tout ce qu'on avait dit. Par exemple, récemment, moi, j'ai discuté avec un collègue qui me disait qu'on a toujours dit en science qu'il n'y a pas de caïman, par exemple, au Sénégal. Mais actuellement, il y a des gens qui disent que non, ce qu'on avait toujours signalé comme des crocodiles, ça vaut la peine d'étudier la répartition de crocodiles qu'on a et revoir les espèces. Est-ce que toutes les espèces sont des crocodiles ou bien le caïman a existé dans cet environnement? Pour dire que les collections, ce sont des trésors.
Sidi Mohamed Seck, sur la flore, comment vous travaillez avec ces collections?
La morphologie, comme on a dit, est-ce que les plantes, entre-temps, ont changé de lieu, mais également, on peut même aller jusqu'à savoir un tout petit peu quel type de maladie donc les attaquer en certains moments, ou est-ce que ce sont des choses qui sont récentes ou plutôt qui étaient anciennes? Et donc, ces éléments de comparaison sont vraiment fondamentaux, donc le travail actuel. Donc, si vous voulez travailler sur des espèces végétales actuelles, c'est toujours bien d'avoir un peu une idée de leur historique, de leur passé, donc pour pouvoir comparer. Et donc, nous, c'est dans ce sens qu'on s'intéresse un peu à ces collections. Dans le contexte de la Grande Muraille Verte, peut-être même de façon plus générale en Afrique, c'est souvent difficile de voir justement des collections qui sont très bien conservées, bien gérées, parce que ça demande des moyens. Et parfois, avec le temps, beaucoup de matériel donc, de ces collections peuvent être perdus s'il n'y a pas une bonne conservation.
Aujourd'hui, qui constitue ces collections? Chaque chercheur individuellement peut commencer à la constituer, mais le but d'une collection, c'est d'être complète, j'imagine, et donc que chacun partage aussi ses découvertes. Alors aujourd'hui, à l'ère du numérique, c'est peut-être plus simple d'échanger, de communiquer, de se poser des questions, de se transférer peut-être des documents. Mais concrètement, est-ce qu'il y a une institution qui constitue ces collections, ou alors est-ce que c'est un travail collectif?
La constitution des collections est un travail collectif parce qu'en effet, chaque chercheur va aller récolter des spécimens sur le terrain en fonction de ses questions de recherche. Par contre, la gestion de ces collections et leur mise à disposition, ça doit se faire au sein de structures pérennes dans le temps. Donc, c'est souvent des muséums d'histoire naturelle. Ça peut parfois être des universités. Mais voilà, l'important, c'est qu'il faut prendre conscience, c'est qu'on conserve ces collections pour les générations futures. Donc, il faut être vraiment certain que le lieu où on les conserve sera encore là dans 100 ans, dans 200 ans. Et puis, que les moyens au niveau des infrastructures vont être pérennes dans le temps. Parce que la conservation de ces collections, ça demande une régulation de la température, de l'humidité pour éviter les moisissures. Donc, ça demande des moyens financiers. Ça demande des moyens humains aussi, parce qu'il faut des gens pour gérer ces collections. Et puis, il faut des gens pour rendre visibles ces collections. Parce que si on a des choses dans les musées, mais que personne ne sait que c'est là, ça ne sert à rien. Donc, il faut informatiser ces collections et qu'une fois que c'est informatisé, ces données entrent dans des grandes bases de données internationales, comme par exemple le GBIF, et n'importe qui sur la planète sait où je cherche des spécimens d'étourneaux, où est-ce qu'il y a des étourneaux. Et donc, vous avez la liste des musées et la liste des spécimens présents dans chaque musée.
On parlait tout à l'heure de la Grande Muraille Verte, et j'aimerais rebondir sur ce que vous dites sur le fait de bien conserver ces collections. La Grande Muraille Verte, donc, c'est un projet qui traverse 11 pays. Actuellement, plusieurs d'entre eux subissent de fortes instabilités. Comment on fait pour s'assurer que ces collections vont rester en sécurité, ou même au-delà de la sécurité, vont continuer à être produites et alimentées pour continuer à garder ce travail-là ? Sidi Mohamed Sek.
Ça, c'est un grand défi. Hein. Et nous, au niveau de l'Université Gaston Berger, donc le projet de jardin botanique qu'on a, un peu intègre cet aspect, donc cet aspect de conservation d'une collection, aussi bien donc des collections vivantes, donc d'espèces vivantes dans le cadre du jardin, mais également donc d'avoir des herbiers et effectivement offrir un peu un cadre de conservation de l'ensemble des espèces qu'on retrouve sur le tracé de la Grande Muraille, parce que c'est un long tracé, comme vous dites, avec plusieurs espèces, donc des populations diverses donc qui sont concernées. Mais l'aspect conservation n'est certainement pas toujours le souci de ces populations. Donc, vous voyez, donc, l'idée d'avoir au moins un endroit où on peut, à défaut d'avoir un musée de la Grande Muraille, on va dire, on se propose au moins au niveau de ce jardin botanique d'héberger, en tout cas, des collections là-bas.
Papa Ibnou Ndiaye, vous vouliez réagir sur ça, sur la conservation, en période d'instabilité notamment, comment on fait pour maintenir cela ?
Oui, ça, c'est une préoccupation majeure, parce que une particularité de ce projet, c'est évidemment cela. Ça traverse donc plusieurs pays avec des situations différentes. Mais on dit que c'est un projet qui peut contribuer aussi à pacifier cette zone. Parce que quand des gens sont appelés à travailler ensemble au niveau international, ils doivent être à bon terme pour être autour d'une table. Ils doivent être à bon terme pour aller travailler ensemble sur le terrain. Maintenant, si on revient aux collections, les préoccupations de la Grande Muraille pour le moment, c'est la restauration des écosystèmes, c'est une recréation de l'environnement naturel qui était perdu. Après cela, effectivement, les collections jouent un rôle important, mais est-ce une préoccupation majeure actuellement pour ces acteurs? Mais il faut savoir aussi, au niveau du projet de la Grande Muraille, il y a une collaboration internationale avec des acteurs qui déjà sur ce plan sont extrêmement avancés. Bon, on peut citer l'exemple de la France avec tout le dispositif du muséum, comme on peut citer aussi d'autres pays. Si au niveau local, on n'a pas ce qu'il faut comme infrastructure pour les garder, à un moment donné, on peut les délocaliser. Et quand les conditions sont favorables pour les retourner au niveau local, on pourra aussi faire un retour pour ces spécimens. C'est des essences. Ce qui est important, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est de savoir les localiser au moment venu quand on a besoin de ces spécimens, savoir où est-ce qu'ils se trouvent. À mon avis, la responsabilité de ces collections doit revenir aux institutions de recherche.
Pour la Grande Muraille Verte, le but, c'est donc de replanter des arbres. Est-ce qu'on va aller voir dans les collections naturalistes, dans les herbiers, etc., ce qui existait peut-être des années auparavant, se dire, bon, bah, cette plante-là, elle résistait peut-être plus aux sécheresses, celle-là, elle avait moins besoin d'eau. Et donc, on va réutiliser et s'inspirer de ces espèces-là.
Déjà, dans les collections, nous avons l'information d'où viennent ces spécimens. Est-ce que ça avait existé dans la Grande Muraille Verte, dans la zone de la Grande Muraille Verte ou non? Mais on peut vérifier aussi au niveau de ce qui existe dans les musées. Et quand tous ces éléments au niveau scientifique, l'information est clarifiée, mais on peut essayer de voir ces animaux ou bien ces plantes ont disparu complètement ou bien ça existe quelque part dans la nature ou bien dans des parcs zoologiques. Au Sénégal, ça a été le cas. Les oryx qui sont réintroduit au niveau du Ferlo, d'abord à Ranerou, ensuite au niveau de Koïlé Alpha, c'est des spécimens qui viennent des parcs zoologiques. Les tortues également. Ça avait complètement disparu de la zone. Mais c'est des individus qui proviennent également de, pour les tortues, pour le cas du Sénégal, le premier repeuplement, ça provient d'une structure qu'on peut dire en particulier qui les a élevés et qui a contribué au lâcher. Actuellement, nous avons 45 tortues qui sont gardées quelque part, mais qui sont destinées à être lâchées au Ferlo. Et sur les gazelles d'Orcas, par exemple, aussi, il y avait un projet de cette envergure, des gazelles qui étaient gardées quelque part dans des eaux au niveau européen, qu'on a redonnées au Sénégal et qui sont réintroduites en milieu naturel.
Alors, dans un autre épisode que je vous invite à écouter, bien entendu, de la Fabrique du Savoir, on s'intéresse aux outils numériques, à l'utilisation de l'intelligence artificielle. Est-ce que dans le cas justement des collections naturalistes, ces nouvelles technologies qui commencent à se mettre en place sur la Grande Muraille Verte peuvent vous être utiles ? C'est-à-dire le fait de référencer, en tout cas numériquement, le fait de pouvoir utiliser l'intelligence artificielle peut-être pour faire des projections, est-ce que ça, vous l'utilisez ?
Dans le cadre des collections d'histoire naturelle, oui, on intègre complètement ces nouveaux outils. Par exemple, on fait des photos des spécimens, photos qui sont accessibles en ligne, donc il n'y a plus besoin de venir se déplacer pour voir le spécimen. Après, de façon plus récente, on fait des CT scans complets des spécimens. Donc là, pareil, les données sont disponibles en ligne, les gens peuvent les télécharger et peuvent ensuite regarder ce qui va les intéresser, le squelette, la musculature, que sais-je. Après, on utilise l'IA aussi pour refaire de la détermination spécifique des spécimens. Parce qu'en fait, on a certains spécimens dans nos collections qui sont mal identifiés et on peut apprendre grâce à l'intelligence artificielle, à des outils numériques, à reconnaître et donc à réidentifier une partie de nos collections.
Alors aujourd'hui, seule une infime portion de la biodiversité est connue dans le monde, à peine 10%. Sans la connaître, on ne peut donc pas la référencer. Comment avoir un regard global finalement sur l'évolution de cette biodiversité si on ne la connaît pas entièrement, Sidi Mohamed Sik ?
La seule façon de connaître cette biodiversité, bien qu'on en a perdu déjà une bonne partie, c'est de continuer à faire ces activités de recherche, d'identification, donc de faire un peu de screening, de répertorier, et d'identifier. Donc, il y a chaque jour des nouvelles espèces qui sont identifiées presque dans toutes les disciplines. Donc, c'est un travail de longue haleine, mais qui mérite d'être fait.
Mais créer une collection, ça prend du temps ? C'est souvent critiqué, cette lenteur, forcément. Comment on peut peut-être améliorer les choses ou en tout cas se dire, eh bien non, ça prend du temps et donc il faut s'en contenter.
Ça prend du temps, mais il y a urgence, en fait. Parce que on est dans le cadre de la sixième extinction. Donc, les espèces, elles disparaissent. Donc, c'est maintenant qu'il faut faire des grandes missions d'inventaire de la biodiversité. Il faut aller collecter ces spécimens avant qu'ils ne disparaissent dans la nature, en fait. Enfin, c'est tout l'enjeu. Donc, par exemple, au Muséum d'Histoire Naturelle, on a un programme qui s'appelle « La planète revisitée ». Donc, il y a justement pour but d'organiser des grandes missions d'inventaire. Donc, chaque année, ça va être un lieu donné et qui va rassembler des scientifiques de différentes disciplines pour pouvoir bien essayer d'avoir une vision un peu globale de la biodiversité dans une zone. Donc ça, c'est une manière de faire des collections. Une autre manière, c'est de mobiliser un certain nombre d'acteurs. Donc nous, par exemple, au muséum, on travaille pas mal en réseau avec tout ce qui est centre de récupération de la faune sauvage. Enfin, les animaux blessés, en fait. Il y a un certain nombre d'animaux comme ça qui sont trouvés morts ou qui vont mourir en centre de soins que l'on peut récupérer et mettre en collection. Ça nous fait des données supplémentaires sur telle espèce, elle était présente à cette date-là, à tel endroit. Et puis, il y a aussi une masse importante de collections qui sont aujourd'hui disponibles chez des chercheurs, des collections d'études, qui ne sont pas déposés dans les musées. Il y a une étude qui a été publiée en 2015 sur les mammifères, donc ça s'occupait uniquement des mammifères, et qui montrait qu'il y a seulement 30% des spécimens collectés sur le terrain pour lesquels, dans la publication, on vous dit précisément dans quel musée ils ont été déposés. Donc ça veut dire qu'il y a 70% des spécimens qui sont probablement dans des touques, dans des bidons, dans des bureaux, ou qui ont été jetés, on n'en sait rien. Et si on peut récupérer tous ces spécimens-là, c'est une source énorme d'informations.
Et comment faire pour les pays qui ne disposent pas de collections naturalistes ? Déjà, est-ce que ça existe ? Mais on parlait tout à l'heure de moyens. Ce n'est pas toujours facile de pouvoir à la fois collecter, puis ensuite entreposer. Quelle coopération il peut y avoir entre pays africains, par exemple, pour la Grande Muraille Verte, mais aussi, puisque c'est une question d'argent, peut-être des coopérations nord-sud. Qu'est-ce qui se met en place actuellement ?
À mon avis, il faut commencer d'abord par l'information, communiquer sur l'importance de ces collections, former des personnes au niveau local aussi qui pourront gérer ces collections et puis investir là-dessus.
Cela, Nicolas Morin, vous voulez compléter ?
Alors, il y a plein de pays dans lesquels il n'y a pas de collection, mais pour lesquels on a des données dans d'autres collections. Enfin, au temps de la colonisation, on a beaucoup collecté, par exemple, en Afrique. Hein. Donc, des données anciennes sur l'Afrique, il y en a de disponibles, même si c'est vrai qu'elles ne sont pas actuellement présentes dans les pays africains. Et par contre, voilà, maintenant, il faut encourager de continuer ces collections. Et puis, il y a des partenariats quand même qui se développent nord-sud. Donc, c'est vrai que selon les cas de figure, bah, des fois, les collections vont être conservées en local dans le pays d'origine. Et puis, parfois, elles vont revenir dans des institutions des pays du Nord. Enfin, l'important, c'est vraiment d'avoir un accord sur où est-ce qu'elles seront le mieux conservées et le plus accessibles.
Merci beaucoup à tous les trois pour cet éclairage. On verra les collections naturalistes d'un autre œil maintenant quand on ira dans les musées d'histoire naturelle. Je vous propose de retrouver tous les autres épisodes aussi de cette saison 3 de La Fabrique du Savoir sur lemonde.fr et sur les plateformes de podcast. À très bientôt.